tous. Merci. Je tiens à remercier l'Observatoire pour l'invitation à cette journée de conférence et également à saluer la qualité des débats parce que j'ai eu l'occasion de suivre les quatre journées. Bravo. J'arrive en fin de journée, je vois qu'il y en a déjà deux, trois qui piquent du nez là-bas. Donc j'ai réfléchi à comment vous présenter en fait deux semaines de dépistage successives qui sont réalisées donc, sur deux années 2012 et 2013 et en Ile-de-France. Et j'ai fait le choix en fait, de vous présenter les deux projets en parallèle et de vraiment axer mon... Il y a énormément de choses à dire sur les opérations flash test. Donc du coup, j'ai dû faire un choix de sélection de quoi vous présenter. Et j'ai fait le choix de vous présenter les deux projets en parallèle en les remettant en contexte, en expliquant les objectifs, en mettant en avant les moyens en fait, qu'on a développés, la stratégie de travail qu'on a mise en place, plutôt que d'axer sur énormément de données chiffrées qu'on a réussi à avoir. Bien sûr, je vous présenterai les résultats des opérations en fin de présentation et j'ai essayé aussi de répondre à la question en fait, enfin, j'ai essayé de mettre en avant en conclusion en fait, en quoi Flash Test donne des informations sur la place des trois dans les dispositifs de dépistage. Voilà. Donc en termes de contexte en fait, on a donc deux opérations qui étaient assez différentes. En 2012, SIDAction a répondu, donc SIDAction qui est une association française qui est plutôt bailleur de fonds, c'est qui collecte de l'argent, qui reverse sur des programmes associatifs en France et à l'étranger de recherche. Et donc du coup, sur cette opération, SIDAction a imaginé la mise en place d'une semaine de dépistage promotionnelle et massive en Ile-de-France auprès du public. Ils ont répondu à un appel d'offres international en ce sens. Et du coup, le contexte en 2012, comme ça a été rappelé à plusieurs moments, on a les trottes qui sont les tests rapides hors du milieu médical qui sont autorisés depuis un an et demi. Ça monte en puissance, c'est relativement restreint encore en 2012. Il y a une dizaine d'associations, peut-être un peu plus en France, qui font qui proposent ce type d'offres. Le milieu médical est peu impliqué, enfin utilise peu en fait les tests rapides dans le cadre de leurs activités habituelles. Et c'est donc dans ce cadre-là en fait, que SIDAction lance le projet. Et donc le projet, un an après, au vu des résultats, parce que voilà, pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais l'opération de Mimouz a plutôt bien atteint ses objectifs. Et donc en 2013, SIDAction souhaitait en fait, que ce projet soit pérennisé, que vraiment on inscrit Flash Test comme une semaine de dépistage éventuellement annuelle, enfin comme une piqûre de rappel auprès des usagers. Et la ministre de la Santé a annoncé en fait la mise en place de ces semaines de dépistage, la reconduction et la mise en place sous un format élargi qui concernait donc en 2013 quatre régions prioritaires en France, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et la Guyane. Un format qui était élargi puisqu'en 2012 on était uniquement sur la cible HSH gay, alors qu'en 2013 on était vraiment sur un programme qui était dirigé vers les populations clés comme on les appelle. Et voilà, donc on a deux projets qui ont à la fois les mêmes objectifs, mais qui ont pourtant ont deux contextes différents et deux pilotages très différents, puisque en première année, on avait un opérateur qui pilotait l'ensemble de l'opération, donc SIDAction. La deuxième année, on avait un pilotage qui était réalisé par le ministère de la Santé, qui allait s'appuyer sur différentes institutions en France. Alors là, de la même manière, je n'ai pas voulu essayer de pas trop en mettre là-dessus, mais je vous les présente vite fait. L'Institut national de veille sanitaire qui s'est occupé de l'aspect évaluation sur le projet. L'INPES, c'est l'Institut national de promotion et d'éducation à la santé qui travaille sur les questions de communication, qui a donc travaillé sur la communication autour de l'opération. La Caisse nationale d'assurance maladie qui a, elle, participé au financement. Donc ça, c'est le pilotage national. Et au niveau régional, la structuration s'appuyait sur les agences régionales de santé, donc qui sont les structures représentant le ministère en région. Les COREVI, qui sont des comités de coordination des rattachés aux hôpitaux, donc des structures territoriales qui visent à coordonner l'activité et FIH sur des territoires identifiés. Et puis sur les opérateurs, évidemment, que ce soit les associations ou les opérateurs médicaux. Donc on a deux structurations extrêmement différentes, deux pilotages très différents sur les deux projets. En termes d'objectifs, on est sur des objectifs qui sont évidemment... Donc les opérations Flash Test, c'est proposer une semaine de dépistage massive à grand renfort de promotion et de communication pour mobiliser avec des dispositifs qui se situent au plus proche des lieux de vie des personnes, des publics qu'on a identifiés comme clés, et dans l'objectif de améliorer le recours au dépistage pour ces publics-là, réduire les retards en diagnostic et en allant en devant des publics les plus concernés. En objectif secondaire, il y avait la volonté de mobiliser de façon la plus large possible les acteurs du champ de la santé sexuelle, c'est-à-dire à la fois les acteurs associatifs qui commençaient à faire du dépistage, mais également l'ensemble, enfin le plus possible, les acteurs médicaux qui soient rattachés aux hôpitaux, voire en médecine de ville. Les cadres qui étaient imposés dans les opérations, donc en 2012, on avait un seul public cible, une seule région qui était concernée, donc Île-de-France et public gay. Et en 2000, donc dans l'opération pilote menée par SIDAction, l'idée c'était d'arriver à la fois dans une stratégie de mobilisation assez large, on avait laissé le champ relativement libre aux structures et aux acteurs qui se mobilisaient sur le projet de mettre en place divers dispositifs de proposition de tests rapides. Du coup, on avait des dispositifs qui se situaient à la fois au plus près des publics concernés, que ce soit dans le quartier, dans le Marais par exemple, mais aussi dans des lieux de rencontre extérieurs, mais aussi des créneaux qui étaient spécifiquement ouverts en milieu médical, sur des créneaux dédiés. On a aussi expérimenté la proposition de tests rapides ciblés vers les HSH dans un service d'urgence de la région parisienne. Et aussi, on a essayé de mobiliser des médecins de ville, donc des médecins libéraux, on a formé, ça je vous l'expliquerai après, pour qu'ils puissent proposer du test auprès de leur public HSH. Tout ça dans un cadre d'une communication globale, dans un dispositif d'évaluation globale également, et en proposant donc des formations gratuites à la conduite d'entretien par test rapide au personnel qui le souhaitait, en particulier les médicaux. En 2013, et justement en conséquence de l'opération 2012, le projet a été donc élargi en termes de région, je l'ai dit, en termes de population clé, mais par contre, on a le cadre proposé pour la mise en place des actions a changé, et là, on proposait essentiellement, enfin uniquement, que les actions soient réalisées hors les murs, donc hors du milieu médical. Et ça, c'est directement lié au fait que l'attractivité, en 2012, avait montré que c'était plus attirant, on arrivait plus à toucher les publics clés quand on était hors du milieu médical. Voilà. Toujours pareil, dispositif de communication et d'évaluation globale, proposition de formation, j'y reviendrai. Donc, les moyens qu'on s'est donnés sur FlashTest, l'idée, c'était véritablement de faciliter le travail des acteurs en proposant une opération clé en main. On a donc réfléchi à des stratégies de mobilisation qu'on a dû penser de manière diversifiée, étant donné qu'on avait des acteurs très différents. On avait donc des associations qui venaient se faire habiliter à la réalisation de tests rapides, pour lesquels, ou des structures médicalisées qui proposaient déjà ce type de tests. Donc ces acteurs-là, on leur a surtout proposé un soutien logistique, voire financier, si c'était nécessaire, et pour les associer sur ce projet-là, qui viennent mener leurs actions, et on a essayé de les pousser à travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Pour les personnels médicaux qui n'étaient pas formés aux tests rapides, on leur a proposé de les former gratuitement à la conduite d'entretien de dépistage par TROD. Et on a mis en place un cadre réglementaire, une sorte d'habilitation. Donc l'habilitation, c'est la procédure réglementaire qui permet aux acteurs de faire du test rapide. Et donc on a proposé de réaliser une sorte d'habilitation chapeau, entre guillemets, pour pouvoir faire que les acteurs, une fois qu'ils étaient formés, ils n'avaient pas à s'astreindre eux-mêmes de cette réglementation, mais qu'on leur proposait un cadre réglementaire dans lequel ils pouvaient travailler. Donc là, on a essayé de faciliter le travail de cette manière-là. On a voulu aller plus loin que les acteurs qui sont directement concernés par les problématiques VIH-SIDA et aller vers les acteurs communautaires, véritablement, pour les mobiliser autour des enjeux de dépistage et sur les dispositifs, et là plutôt sur un poste d'accueil en fait, des dispositifs qu'on mettra en place. Deux, trois mots sur la manière dont on a conduit le projet. Grosso modo, les projets sont montés sur 9 mois. On a 4 phases qu'on peut identifier dans la mise en place du projet. Une phase préparatoire qui a duré 5 et 6 mois les 2 années, qui, si elle était plus longue, permettrait de faire plus de choses. Donc cette phase préparatoire, il s'agit bien évidemment de mobiliser les acteurs. Je vais vous expliquer un peu les stratégies qu'on a mises en place. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que la mobilisation, ça prend énormément de temps. Voilà, il faut avoir chaque acteur plusieurs fois. Entre une première fois, on explique le projet, une deuxième fois, on revient vers eux pour voir un peu où ils peuvent s'insérer. Donc ça, c'est une phase de travail qui est très chronophage. Cette phase préparatoire, ça a permis aussi d'essayer de définir des grands axes de travail en fait, pour aboutir à l'opération. Et donc, à ce moment-là, on a monté différents groupes de travail. Un axe sur la formation des personnels, un axe sur la stratégie de communication à développer, un axe sur le dispositif d'évaluation et un axe aussi sur la manière de concevoir l'opération, enfin sur les questions logistiques. Cette phase préparatoire, il y a aussi évidemment tous les aspects réglementaires, j'en parlais un petit peu, la réglementation c'est à la fois pouvoir faire travailler les personnes dans le cadre qui est posé par les arrêtés qui ont été publiés pour travailler sur les tests rapides. Mais la réglementation, c'est également gérer les circuits de déchets infectieux, c'est également demander des autorisations pour investir l'espace public, etc. Enfin, c'est un aspect du projet qui prend aussi pas mal de temps. Il y avait des éventuelles recherches de fonds, etc., etc. En fait, cette phase-là de préparation, elle est assez, assez longue, et puis elle se termine au moment où on a réussi à savoir qui est mobilisé sur le projet, à mettre en place un agenda d'action, et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une seconde phase, que moi j'ai appelée pré-opérationnelle, où là, vraiment, il s'agit de préparer la logistique de terrain, former les acteurs, parce que les processus de formation, après avoir créé les contenus, etc., on avait fait le choix de rapprocher les formations, donc l'apport théorique de la mise en pratique, donc les formations sont situées une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours avant la semaine d'intervention. Cette phase-là, c'est aussi tout le déploiement de la communication, de finaliser tous les aspects réglementaires, briefer les acteurs pour qu'ils puissent travailler sur le terrain. On arrive ensuite sur la semaine d'intervention. Si tout s'est bien passé, normalement, il ne reste plus qu'à superviser les dispositifs, suivre un peu l'activité au quotidien, gérer les relations presse et médias, notamment sur l'année 2013, on a été très sollicités. Faire le lien entre les institutions et le terrain, parce que ce flash test a été l'occasion aussi, je pense, pour pas mal d'institutionnels de venir voir un peu comment travaillent les acteurs, ce qui n'est pas inintéressant. Bien sûr, gérer tous les imprévus. Voilà. Ensuite, on passe sur la quatrième phase, où il s'agit là de recentraliser les données collectées, les analyser, débriefer avec les acteurs pour avoir un petit peu de qualitatif, bon, les remercier évidemment et faire des bilans, etc. Je vais vous présenter maintenant en fait les résultats un petit peu de l'opération, à savoir l'axe, les indicateurs l'évaluation, donc les principaux indicateurs qu'on a retenus, le dispositif de communication, ensuite le dispositif d'intervention avec les quelques résultats sur les semaines. Voilà. Donc en termes d'évaluation, je vous passe, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous passe un petit peu les détails. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en termes d'indicateurs, on a mis en place un auto-questionnaire usager, évidemment, pour voir un petit peu quel était le profil des personnes qui venaient sur les dispositifs. Et puis, je me permets une petite parenthèse autour de cette manière de fonctionner. On a voulu vraiment, enfin, on est parti sur l'idée en 2012 de se dire que le public gay, quand il va en centre de dépistage, s'il a envie d'avoir accès à son test, il va raconter ce qu'il veut au médecin pour avoir ce qu'il veut, pour obtenir son test. Et puis, s'il n'a pas envie d'être jugé, il va raconter qu'il ne prend jamais risque, etc. Là, en partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il était intéressant, dans le questionnaire qu'on proposait aux participants, de leur faire remplir seul. De leur faire remplir seul en amont du dépistage, que ce questionnaire ne serve pas de grille d'entretien pour le dépisteur, c'est-à-dire que le questionnaire se retrouvait à être mis en enveloppe, et ce qui permettait de mettre en condition l'usager pour qu'il sache que, grosso modo, ces données n'allaient pas servir au dépisteur pour lui dire telle ou telle chose. Bon, c'est une méthodologie qu'on a mis en place la première année, qu'on a renouvelée la seconde année. Après, en termes d'indicateurs, on a évidemment tous les indicateurs d'activité, j'y reviendrai quand je présenterai les résultats, mais aussi des indicateurs plus qualitatifs liés au retour des acteurs. En plus d'essayer d'évaluer la communication et son impact, ce qui n'a pas du tout été évident. Et en 2012, en plus de tout ça, il était question d'évaluer la fréquentation des dispositifs et de voir en fait d'évaluer par ce biais-là l'attractivité des différentes offres, plus ou moins médicalisées, plus ou moins hors les murs, etc. Sur la communication. Alors, je vous présente la communication qu'on a mis, enfin, la trame, la charte graphique un petit peu qui a été mise en place en 2012, donc sur l'opération CIDAction, qui était dirigée que vers les gays. Que vous dire sur ce dispositif ? C'est une campagne de communication qu'on a voulu sans la référence au VIH-SIDA, sans logo, ce qui est relativement, ce qui est remarquable, je pense, avec l'incitation à flasher des QR codes bien disposés, comme vous pouvez le voir. Et en fait, bon, il faut aussi mettre en contexte que les QR codes aujourd'hui, ou les flash codes, d'ailleurs flash test, ça vient de flash code, hein, le nom, c'était relativement nouveau en 2012 quand on a mis ça en place. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu sur n'importe quelle affiche publicitaire. Donc voilà, on a voulu jouer sur à la fois une campagne sexy, flashy, sans le VIH, et qui se voulait un petit peu mystérieuse, avec évidemment des déclinaisons web, presse, et notamment le QR code, une fois qu'il était flashé, ramené sur un petit site mobile très simple, permettant principalement de pouvoir localiser les dispositifs d'intervention en temps réel. Voilà. 2013, donc on était sur une situation qui est très différente, comme je vous expliquais. La campagne de communication a été gérée au niveau national. Les acteurs locaux, moi je me suis occupé de l'Île-de-France, auraient aimé que la campagne ne soit pas faite dans ce sens-là, mais l'institut qui s'est occupé de ça a décidé de faire une campagne unique pour l'ensemble des publics prioritaires, c'est-à-dire à la fois qui parlent aux gays, aux migrants, aux putes, voilà. Donc une campagne unique, ce qui n'était pas forcément du goût des acteurs. Donc là, ils ont voulu jouer en fait plutôt sur le vous êtes ici, cette semaine le dépistage vient à vous. Sur le côté là-bas, vous voyez en fait donc des pictogrammes. L'idée c'était d'arriver en fait à pouvoir expliquer à des personnes qui comprendraient mal ou qui liraient mal le français la conduite dans l'entretien. Donc il y avait quand même un souci à la fois de pouvoir s'adresser à des personnes qui soient moins francophones que d'autres, mais il fallait en tout cas garder une campagne de com. Adapté à tous les publics, donc on peut en penser ce qu'on veut. On a quand même réussi à négocier un doigt noir, un doigt blanc, je ne sais pas si ça va très bien. Voilà, donc on a eu, en 2013, on avait des moyens extrêmement, pas beaucoup plus importants, notamment sur la question de la communication. Dans le cadre de ces dispositifs de communication, donc au-delà des outils que je vous présente là, il y avait énormément d'achats d'espaces publicitaires dans des commerces, dans des endroits très, très localisés, des achats d'espaces par exemple dans le 93 pour essayer de toucher le public migrant sur les l'agence régionale de santé d'Île-de-France qui pilotait donc le projet en Île-de-France avait mis en place une agence de presse en fait qui devait mobiliser les médias. On a beaucoup briefé cette agence de presse en amont en lui expliquant que on était vraiment à la fois dans une campagne qui devait parler à tout le monde mais dans un objectif de croiser les publics prioritaires. Donc il fallait arriver à jongler en fait avec ces deux consignes là. Et donc on a bien expliqué qu'on ne voulait pas que cette agence de presse ramène l'ensemble des médias grand public lors du lancement presse qui a eu lieu en début de semaine. C'est là que le bât blesse parce que du coup, les consignes qu'on a données, soit elles n'ont pas été comprises, soit elles n'ont pas été appliquées pour d'autres raisons. Et donc au final, ils ont essayé de rameuter de façon très large l'ensemble des médias. Et on s'est retrouvé donc sur une semaine avec un lancement presse très important, ce qui a eu des conséquences, et j'y reviendrai après sur la conduite de l'intervention. Comment on a conçu les formations? Donc là, je vous prends un peu les résultats sur les deux années. Toujours, la première année, on s'est dit qu'il était intéressant déjà l'esprit des formations, c'était d'arriver à mettre les personnes ensemble entre corps de métier. C'est-à-dire que les enjeux de formation au niveau d'un public infirmier, au niveau d'un médecin, on s'est dit que c'était pas forcément les mêmes et que du coup, on a essayé vraiment de regrouper, donc dans une sorte de démarche d'autosupport en fait, les corps de métier ensemble. La première année, on était sur un dispositif de formation qui était relativement modeste, 32 intervenants qui ont été formés, 16 médecins généralistes qui ont proposé du trot dans leur cabinet médical, je reviendrai après là-dessus, et aussi 16 infirmiers qui ont été formés à la conduite d'entretien. En plus de 60 intervenants communautaires qu'on a mobilisés, qu'on a informés sur les enjeux du dépistage et qu'on a formés afin qu'ils puissent faire de l'accueil sur les dispositifs. En 2012, le dispositif de formation a été pris en charge par un institut de formation partenaire. En 2013, on a vu ça un petit peu différemment. On s'est dit qu'on allait nous-mêmes monter les formations, ce qui était peut-être une erreur. On a ouvert les inscriptions en ne sachant pas trop où on allait en termes de volume. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes inscrites. Donc on a au final formé pratiquement 150 intervenants, des médecins, des infirmiers, des intervenants associatifs pour conduire des entretiens de dépistage par test rapide. Donc comme je disais, qui étaient réunis par corps de métier pour pouvoir échanger autour de ça. Mais aussi, on a créé un module qui va au-delà en fait, du cadre réglementaire qui est imposé par l'arrêté TROD. Et on a vraiment voulu pouvoir former les intervenants, qu'ils soient médicaux ou associatifs, à la manière d'approcher les différents publics cibles dans leur milieu de vie. Donc on a créé des groupes par sous-public, les HSH, les personnes migrantes, etc. On a aussi, évidemment, briefé des intervenants communautaires sur l'accueil, sur les enjeux du dépistage, et puis le dispositif était plus important, on avait des personnes qui étaient en supervision de plusieurs sites. En termes de dispositif, qu'est-ce que ça donne? 2012, on a ouvert 39 lieux de dépistage, donc comme je le disais, il y avait des lieux au plus près des publics gays, mais aussi des lieux médicalisés, des lieux de rencontres extérieures, des lieux commerciaux, etc. 39 lieux de dépistage ouverts, environ 200 intervenants mobilisés, environ 200 heures de dépistage, je dis environ parce que je n'ai pas réussi à retrouver le chiffre, 3 centres hospitaliers partenaires qui étaient là pour prendre en charge les usagers qui auraient été découverts positifs dans le cadre de la semaine. 2013, on est sur une opération qui est dimensionnée relativement différente, qui est beaucoup plus importante en termes de dimensionnement. 135 lieux de dépistage, là, exclusivement hors les murs. 40% de sites qui n'avaient jamais été investis auparavant. Plus de 500 intervenants mobilisés, 70 structures médicales et associatives. Plus de 1500 heures de dépistage. On a augmenté le nombre de centres hospitaliers partenaires pour pouvoir orienter les usagers. Et puis, comme je vous l'expliquais, on a eu énormément de retombées presse. Donc, les semaines d'intervention sont toutes très bien passées en termes de logistique, c'est-à-dire que les acteurs étaient contents, on n'a pas eu de problème majeur, on n'a pas eu de... Même pas eu de problème à gérer le calendrier d'intervention, c'est-à-dire que les gens ont joué le jeu, ils sont venus comme ils devaient le faire. Donc, ça, c'est super. On n'a pas eu de problème avec les usagers. Enfin, on a eu un problème, je pense que je n'en parlerai pas, sur les 5000 usagers qu'on a pu tester en Ile-de-France, on a eu un usager qui est revenu vers nous, qui n'était pas content, passons. Mais par contre, on a cette agence de presse qui a fait un lancement presse le lundi matin et qui a ramené en fait énormément de médias généralistes. On s'est retrouvé donc d'une part submergé par les demandes d'interview, alors qu'on n'avait pas forcément prévu, mais surtout on s'est retrouvé avec un dispositif qui commençait à être véritablement débordé par le public. Donc voilà, je vous présente un petit peu les résultats. C'est-à-dire que les trois premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, grosso modo, les dispositifs étaient saturés. Alors on vendait aux usagers le test est rapide, le résultat c'est immédiat, ils se retrouvaient à attendre deux pompes pour avoir accès à leur test. Bon, on a même eu droit à des hétéros qui allaient se naguer parce qu'ils avaient vu sur notre agenda d'action qu'il y avait un dispositif, donc ça posait encore d'autres problèmes. Donc au final, on s'est retrouvé la deuxième année, enfin on s'est retrouvé en 2013 à plus que doubler notre prévision de tests, c'est-à-dire qu'on avait prévu de faire entre 1500 et 2500 tests, on en a fait plus de 5000. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en termes de résultats? Donc, voilà, on a deux opérations qui sont dimensionnées très différemment. Ce qu'on voit en termes de résultats, c'est que la première année, on a fait à peu près 500-600 tests. On a réussi, grosso modo, à cibler le public. C'est-à-dire que 66% du public fait partie de la cible que l'on souhaitait. Je ne vais pas plus loin dans les chiffres, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, par exemple, sur le dispositif urgence, le ciblage était nettement moins bon que dans d'autres endroits. Enfin, voilà. La stratégie mise en place pour les questionnaires usagers était relativement efficace, enfin très efficace, puisque la majorité des questionnaires étaient renseignés. En 2012, il se trouve, donc là on va retomber un peu sur ce qui était déjà dit, on arrive à toucher à peu près 10% de gens qui n'avaient jamais accédé au dépistage et qui donc se sont saisis en fait de l'opportunité d'un dispositif pour accéder au test. 42% des HSH qui ont eu accès au test étaient hors des recommandations de dépistage annuelles et 25% qui déclaraient qu'ils n'auraient pas fait de test s'ils n'avaient pas eu l'opportunité de le faire à ce moment-là. Voilà pour quelques indicateurs intéressants. Sur l'année 2013, donc comme je vous le disais, on a un volume de tests qui est très important, plus de 5000 tests, qui a posé d'énormes problèmes à la fois logistiques, mais aussi de ciblage. On n'a que 38% de public prioritaire. Je pense que c'est directement, enfin à mon sens, c'est directement lié à cette communication. Voilà, les questionnaires, ok. Par contre, et là aussi, on peut, je pense, lier à la communication, étant donné qu'on a ramené 35% de personnes qui n'avaient jamais été dépistées, mais qui n'étaient pas, par contre, dans les sites prioritaires. Et puis voilà, donc là, toujours pareil, on se rend compte qu'il y a il y a un tiers des personnes qui n'auraient pas fait de test si elles n'avaient pas eu l'occasion de croiser un dispositif. Quels sont les profils des découvertes de séropositivité et comment on a géré le lien vers le soin? En 2012, on a 9 découvertes de séropositivité, ce qui revient à un taux de découverte de 1,6%. 7 personnes sont dans la cible qu'on a, la cible gay, en fait, dont 3 qui n'avaient pas l'intention de se faire dépister, donc c'est pour répondre un petit peu aux objectifs, en fait, est-ce qu'on arrive à toucher en fait, ces personnes en fait, qui ne seraient pas allées se faire dépister? Ben là, on répond au moins partiellement. Alors, est-ce que 3 personnes, c'est suffisant, pas suffisant dans le cadre de cette opération-là? Moi, je ne pourrais pas y répondre. Mais en tout cas, du coup, ça montre que malgré tout, on arrive à toucher à ce que des personnes découvrent leur séropositivité. Et sans ce dispositif qui était au plus proche d'eux-mêmes, ils n'auraient pas accédé au test et qu'aujourd'hui, ils ne connaîtraient toujours pas leur statut sérologique. Trois gays qui avaient testé dans les 12 derniers mois, d'après ce qui est déclaré, donc des infections plutôt récentes. Voilà, aussi, un homme hétérosexuel, j'ai mis un point d'interrogation, parce que la question, c'était s'il avait eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec des hommes, donc il a répondu non. Et une personne qui était travailleuse du sexe. En termes de prise en charge, notre circuit de prise en charge, je peux vous en parler un petit peu plus si vous le souhaitez après, a plutôt bien fonctionné. On a une personne qui a refusé la prise en charge, donc on ne pouvait pas les retenir évidemment. 8 personnes qui ont été confirmées et après sont entrées dans le soin, malheureusement, nous, on n'a pas les informations. En 2013, pardon, on a 39 découvertes de séropositivité en Ile-de-France, qui fait un taux de découverte de 0,8%. Et puis, de manière assez remarquable, entre un ciblage qui est mal effectué sur le public qui vient accéder au dispositif, mais par contre, qui découvre ses séropositivités, là, évidemment, on retombe sur les publics prioritaires. Donc, 33 personnes parmi les 39 qui sont issues des publics prioritaires. Si je me souviens bien, il y avait grosso modo la moitié de gays, une petite moitié de migrants et puis quelques personnes transgenres. 3 jeunes femmes qui sont hors public prioritaire, a priori, d'après ce qu'elles déclarent. Une femme qui hétérosexuelle, mais là, on a réussi à faire le lien, justement, ce que je te posais comme question avant, qui a été contaminée par son mari, qui lui était aussi séropositif, mais qui déclarait des rapports avec des hommes, de profil incomplet, voilà. Sur des éléments remarquables, c'est que sur ces 39 personnes, 17 personnes n'avaient jamais été testées. Donc, depuis quand elles portaient leur infection ? C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas les informations, parce qu'on n'a pas fait le lien avec le sang, justement. 10 personnes qui n'avaient pas l'intention de se faire dépister, donc qui sont saisies d'un dispositif devant leurs yeux pour accéder à leur connaissance de leur statut. En termes de prise en charge, là encore, on a manifestement un système qui marchait plutôt bien. 38 usagers ont été confirmés en test ELISA, donc, et une personne qui a refusé d'être prise en charge. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau de timing, mais vu que personne ne fait des signes, mais ça va. Ok, donc, ouais, mais de toute façon, je vais essayer de conclure. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Flash. J'aurais pu vraiment développer beaucoup d'autres aspects du projet. Donc, maintenant, j'ai plutôt essayé d'ouvrir la discussion. Enfin, je vais vous laisser me poser les questions que vous le souhaitez. Voilà, grosso modo, en termes d'atteinte des objectifs, Flash Test. En termes d'atteinte des objectifs, l'opération 2012 a répondu aux questions, c'est-à-dire qu'on allait au-devant des personnes, on a réussi à rapprocher le diagnostic de l'infection, on a réussi à mobiliser les acteurs, etc. Donc on est sur une opération qui, grosso modo, était une réussite totale, je ne sais pas si c'est un peu prétentieux. En 2013, comme je vous le disais, la question de la communication a été pas gérée comme nous, on l'aurait aimé, et ça a des conséquences directes sur à la fois l'afflux de monde sur les dispositifs, mais également sur le ciblage. Ce que démontrent les opérations Flash Test sur les deux années, c'est qu'il est évidemment possible à la fois de mobiliser les usagers pour se rendre dans un dispositif de dépistage, mais également les acteurs. Donc ça, c'est une des données qui semble intéressante. J'y reviendrai juste après. Les enjeux de communication, ça je l'ai déjà dit, sont cruciaux et doivent être adaptés aux objectifs posés. C'est-à-dire que nous, sur la deuxième année, il y avait un comité de pilotage régional et tous les acteurs étaient d'accord pour dire on fait une opération qui est dirigée vers les populations clés, donc il faut que notre communication soit adaptée à ça. Et donc, à un moment donné, en fait, il faut vraiment se poser la question de si on fait une opération type Flash Test ou autre, est-ce qu'on souhaite faire de l'information générale au grand public qui peut avoir un sens sur l'intérêt de se faire dépister pour tout le monde, ou est-ce qu'on essaie de faire une communication qui soit adaptée aux populations clés? Je crois qu'il faut quand même reposer la question aussi des visuels. Est-ce qu'un visuel pour l'ensemble des publics, c'est pertinent ? C'est facile à faire, ça on veut bien. Enfin, c'est plus facile à faire, on veut bien l'entendre. Est-ce que c'est pertinent ? Ça, la question, je pense, peut se poser. Entre 2012 et 2013, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs moyens de piloter un projet dont les objectifs sont relativement similaires. À mon sens, et là c'est plutôt une remarque personnelle, je pense qu'en 2013, le pilotage très institutionnel et décentralisé sur plusieurs acteurs a amené une certaine lourdeur en fait, qui n'avait pas été celle qu'on avait pu avoir l'année précédente avec un opérateur centralisé. Un des regrets, donc là, encore sur les conclusions personnelles, je pense qu'en termes d'évaluation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on avait envie de faire plein de choses. En fait, on aurait voulu voir un petit peu quels étaient les bilans biologiques des personnes qui avaient été découvertes. Enfin, donc essayer de voir un petit peu plus loin en fait si elles étaient dans des dépistages tardifs ou autres. On aurait voulu faire de l'ethnographie sur les dispositifs, avoir du cali, voir un petit peu quelles sont les différentes formes qu'on peut proposer, quelles sont les plus pertinentes. On aurait voulu demander aux usagers ce qu'ils pensaient des dispositifs, évaluer éventuellement leur niveau de connaissance acquise. Voilà, toutes ces choses-là, bon, on n'a pas pu les faire pour, je pense, à la base pour des raisons de moyens financiers, mais voilà. Alors que pourtant, finalement, si on y réfléchit un peu avant, c'est pas forcément, enfin, je crois que c'est pas forcément si coûteux que ça de greffer un petit groupe de chercheurs en sciences sociales ou autres autour d'un projet comme ça. Je crois qu'on aurait eu, pour une somme relativement modique, surtout à la vue des fois du coût global du projet, des données intéressantes, mais malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Mais du coup, si je mets ça en avant, c'est pour vous dire voilà, c'est que ce type de projet-là peut véritablement être pertinent en fait, à réaliser avec des équipes de recherche plus en proximité de ce qui a pu être fait. Voilà. Pour conclure, au final, et pour répondre un petit peu à la question de la journée, en fait, comment, en quoi Flash Test, quelle est la place des trods dans les stratégies d'épitage et en quoi Flash Test apporte des informations intéressantes. Donc, bien sûr, les trods sont des outils d'orientation vers un diagnostic médical. Ça, c'est le cadre qui est posé. Ce qui veut dire que pour que ce soit, et que donc, vu qu'en France, en tout cas, ça peut se faire au niveau communautaire, il faut évidemment que les réseaux soient tissés entre les médicaux et entre les communautaires et les médicaux, ne serait-ce que pour que cette procédure d'orientation soit bien faite. Donc, dans ce cadre-là, Flash Test est vraiment un projet intéressant puisqu'il permet de réunir ces deux corps de métier, entre guillemets, pour travailler ensemble sur une opération. Et donc là, ça, rien que sur cet aspect-là, ça a du sens de monter des opérations comme ça. Le TROD, il a été utilisé dans le cadre de FASHES comme un outil d'accroche novateur, en fait. Donc, on a joué sur l'aspect nouveauté, c'est rapide, c'est là, là. Et ça, sur les deux années, on voit que ça a attiré le public. Le TROD, bon, ça a déjà été dit toute la matinée, je crois, c'est un outil pour aller au-devant des populations les plus exposées au VIH, et je tiens à préciser que dans ce cadre-là, le TROD participe à réduire les inégalités de santé, parce que les publics qui ne vont pas en milieu médicalisé sont souvent des gens qui ont des barrières de langue, sont souvent des gens qui ont des différences qui leur sont propres et qui se sentent stigmatisés. Voilà. Et puis le dernier point par rapport à des choses qu'on a souvent entendues, et donc je vais complètement dans ton sens, Eve, je crois que là, en tout cas, les limites et les performances des TROD ne doivent pas être un frein à leur usage, notamment auprès des populations chez lesquelles le dépistage doit être répété aussi souvent que nécessaire, dans le sens que la fenêtre des 3 mois qui peut être mise en avant comme un frein, je prends l'exemple de HSH à qui on dit de venir se faire des dépister tous les 10 partenaires, c'est-à-dire tous les 3 mois en fait. La fenêtre des 3 mois, cette limite de la fenêtre des 3 mois, elle se pose plus quand la personne elle vient 4 fois dans l'année. Voilà. Parce que quoi qu'il en soit, si la personne elle vient se faire dépister régulièrement, elle sera prise en charge rapidement. Voilà. Du coup, voilà la fin de mon intervention. Je ne vais pas remercier tout le monde, hein, parce que ça ne va pas être possible. Si je vais remercier quand même quelques personnes, je vais remercier les équipes de SIDAction. Parce que c'est vrai qu'un projet comme celui-là, s'il n'avait pas été initié par Vincent Douris, Véronique Anozeda, Sandrine Fournier, Marc 19, il n'aurait pas vu le jour. Donc ça, c'est important de les remercier. Sur l'année 2013, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais remercier particulièrement ma collègue Jeanne-Marie Pascal, en fait, qui était la référente VIH de l'Agence régionale de santé et qui a largement dépassé son rôle d'institutionnel pour arriver à ce que ça se fasse. C'est-à-dire que vraiment, on a laissé tomber les barrières de nos fonctions et de nos postes pour mettre les mains dans le cambouis. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de... heureusement qu'elle a été là, parce que sinon on n'aurait pas pu réaliser l'opération comme elle a été menée, parce qu'en termes de logistique, on a eu plein de choses qui ont été relativement mal évaluées. Et en plus de cet afflux de monde, cet afflux de médias, etc., etc., qui n'était pas prévu. Donc voilà. Je vous remercie.